France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est un poème du 1er siècle de notre ère, composé de 12 000 vers et de 15 livres, un classique que nous lisons avec philosophie, les Métamorphoses d'Ovide. Et aujourd'hui, place à une figure fascinante, Méduse. Avec ses cheveux de serpent, ses yeux pétrifiants, Méduse est l'une des figures féminines les plus connues mais aussi les plus ambivalentes chez Ovide, et n'ayons pas peur des mots, dans la culture occidentale. Mais qui est-elle, Méduse ? Monstre, victime, sauveuse, railleuse ? Et si son regard avait moins le pouvoir de nous transpercer que de nous percer à jour ?
Comment tuer le Kraken ?
Une seule solution, mais irréalisable.
Très bien.
La Gorgone Méduse. Tout être de chair, elle le tue d'un regard.
Sa prison fétide est de l'autre côté du Styx, aux limites du royaume des enfers.
Titan contre un titan.
Elle nous sera inutile contre le Kraken. Elle est incontrôlable. Nous prendrons sa tête.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
On se salue sur ces bruitages visqueux et dégoûtants. Alors je vous présente quand même. Vous êtes
ça c'est une entrée en matière.
Visqueux, voilà, ce sera le mot du début. Vous êtes philosophe, De vous va bientôt paraître fin mars aux éditions Stock votre livre Vengeance, le droit de ne pas pardonner. Alors des histoires de vengeance, il y en a en long et en large dans les Métamorphoses, c'est pour ça qu'on a pensé à vous. Avec le désir et la peur, on peut dire que la vengeance est une des passions primordiales des Métamorphoses. Vous avez choisi de parler de Méduse. Est-ce que Méduse est une figure de la vengeance ? Ça n'est pas la première figure à laquelle j'aurais pensé pour ma part. J'aurais pu penser à Médée plutôt que Méduse.
Ah, Médée, bien sûr. Mais Médée est une héritière de Méduse.
Ah bah d'ailleurs, le mot, il y a peut-être une étymologie quand même commune.
On peut faire des lapsus facilement.
Oui, d'ailleurs, je pense que je vais peut-être en faire durant l'émission. Moi, j'ai pensé aussi à Philomèle, parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour Philomèle qui se venge de son mari qui a violé sa sœur en tuant son fils, en lui faisant manger. On n'en parlera pas cette semaine, mais je tenais quand même à en parler. Donc, pourquoi Méduse ?
Ah, pourquoi Méduse ? D'abord, pour la longévité de ce mythe qui est quand même 2800 ans et on continue d'en parler. Et c'est même devenu un nom courant dans la langue française, hein, être médusé.
Donc, on l'entend dans des blockbusters, là, c'était en 2010.
On l'entend dans des blockbusters,
exactement.
Donc c'est quand même une figure qui ne cesse de hanter la culture occidentale, peut-être parce que justement, elle est une des figures de la culture, ce que veut dire la culture. Mais on le
dira. On va rentrer dans les détails.
On va revenir. je trouve que il y a une esthétique de l'effroi qui est vraiment intéressante à explorer en littérature bien sûr dans Ovide lui-même mais Méduse a été représentée à satiété hein, jusqu'à au cinéma de nos jours mais c'est quelque chose elle est ce personnage qu'on peut pas regarder dans les yeux et pour cause parce qu'elle va nous ôter et la vie et l'humanité elle va nous transformer en statue elle va nous pétrifier mais en même temps je me demande si c'est pas une manière de définir ce qu'est ce que sont toutes les œuvres de culture que produisent les humains, à savoir le fait, par cette médiation, de représenter ce qu'on ne saurait regarder. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un mystère, mais peut-être que le mystère doit rester entier. Je trouve que quand on produit de l'art, de la littérature, de la philosophie, de la poésie, c'est peut-être le moyen un peu oblique qu'on a trouvé pour représenter quelque chose qu'on ne peut pas regarder directement dans les yeux.
Effectivement, on va en reparler, Laurence de Villers. On peut aussi revenir quand même sur l'étymologie du mot gorgone, parce que Méduse, c'est une gorgone avec ses deux sœurs, et gorgone, ça veut dire l'effroi, gorgo. Donc il y a quand même tout de suite, d'emblée, dès son nom, et on a vu à quel point, à travers les premières émissions, le langage était important, puisque le langage dit tout d'une certaine manière. Il faut aller jusqu'au bout du langage pour comprendre, mais ça veut dire que si on s'appelle Méduse, bon maintenant il y a le terme médusé, mais si on s'appelle gorgone, on était presque d'une d'une certaine manière condamné à susciter l'effroi, à être monstrueux.
Gorgo, c'est terrible. Ça veut dire terrible en grec, donc c'est évidemment le registre de l'effroi. Mais je trouve intéressant qu'on ait besoin, pour comprendre ce qui nous arrive, parce qu'après tout, les mythes ou la mythologie ou Ovid, c'est plus que ça, mais c'est déjà quand même comprendre ce qui peut nous arriver. Je trouve que ce soit intéressant d'inclure l'effroi, plus que la peur, hein. L'effroi qui sidère, qui paralyse.
On parlerait de sidération, oui, aujourd'hui.
Oui, vraiment, c'est la sidération. Je pense que ce serait le mot contemporain pour dire cet effroi. C'est important d'inclure dans la pensée de ce qui nous arrive, ce qui finalement nous fige. On a l'impression que il y a des choses qui nous arrivent, et je crois que Méduse personnifie cela, desquelles on ne peut pas s'en sortir indemne. Donc c'est important de se dire que pour penser, oui, ce qui nous arrive à nous humains, on inclut absolument l'effroi qui sidère et qui fait que on peut rien faire.
C'est pas une passion triste pour Ovide, c'est ça que vous voulez dire?
En fait,
bon, passion triste, le terme est anachronique parce que ça arrive bien après. Mais disons que c'est pas une passion négative qui va condamner quelqu'un. On pourrait dire qu'un nom étiquette. Que quand on s'appelle Méduse, Gorgone, on est quand même condamné à susciter l'effroi et à ne pas sortir de cette case de monstre. Or, chez Ovide, on parle quand même de métamorphose, ça veut dire que l'être n'est jamais figé. En quoi, du coup, l'effroi soi doit être réhabilité en tant que tel, aujourd'hui, soit en fait se dire que, effectivement, l'effroi peut être dépassé. C'est quoi la lecture chez Ovide qui pourrait...
À mon sens, Ovide essaie de penser l'être, ce qui est. Et il le fait justement, c'est intéressant, sans catégorie prédéfinie. Les catégories du bien et du mal, et même les catégories de l'humain, de l'animal ou du monstre. Je crois qu'en fait, il veut vraiment se poser la question qui est la question philosophique des Grecs. Hein. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce qui est? Pourquoi il y a quelque chose qui existe? Et comment il existe? Et qu'est-ce qui lui advient à ce qui existe? Comment il peut devenir, par exemple? Et ça, c'est une vraie question philosophique et même métaphysique. Et je crois qu'Ovide le fait sans aucune autre catégorie que de voir ce qui peut arriver à l'être, ce qui peut devenir. Et la métamorphose, c'est ça, c'est une vraie question philosophique, c'est de savoir comment je peux devenir autre sans être totalement autre, parce qu'il resterait rien de moi, ça serait une nouvelle création. Et qu'est-ce qui demeure quand je change? Mais ça, c'est peut-être pas la question qu'on se pose tous les jours, hein. Mais
pas en fait, quand même.
Mais on la vit tous les jours. C'est une question qu'on vit tous les jours. Comment je peux dire, par exemple, je suis Géraldine, je suis Laurence, alors que il reste rien de l'enfant que nous avons été.
Et pourtant, croyez-vous?
Mais alors, en apparence, il reste. Je vais parler pour moi. Il reste pas grand-chose. Mais cet enfant que j'étais, non seulement vit encore en moi, mais peut-être que dans l'enfant que j'étais, il y avait celle que je suis maintenant. Et c'est ça la question philosophique d'Ovide. Qu'est-ce qui, dans la métamorphose, n'est plus ou est encore? Et je crois que...
Qu'est-ce qui perdure, en fait? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que Méduse, métamorphosée, va continuer à être Méduse, celle qu'elle était au départ?
Totalement, même morte.
Elle continue à vivre même morte. On va
et en fait, Méduse, c'est intéressant parce que, justement, nous avons tendance à appréhender l'être parce que je crois qu'on a peur. La peur nous guide, donc on fait des catégories. Ce qui est, ce qui n'est plus, ce qui a été, ce qui est devenu. Alors qu'Ovid, à travers Méduse, me semble-t-il, c'est pour moi la figure qu'il permet le mieux, nous dit, oubliez tout ça. Essayez de penser l'être en lui-même, qu'est-ce qui est? Et je trouve intéressant que Méduse, justement, brouille toutes les catégories. Elle est à la frontière du royaume des morts et des vivants. Elle est une gorgone, donc une divinité, mais la seule des trois sœurs, des trois gorgones, à être mortelle. Donc elle joue avec la frontière de la vie et de la mort. Une fois morte, elle continue à avoir du pouvoir. Elle est aussi celle qui sait effectivement métamorphosée et transformée à la suite d'un viol. Donc elle devient autre avec des pouvoirs qu'elle n'avait pas. Elle était, dit-on, très belle, elle est devenue d'une beauté, parce qu'elle la perd sans doute pas, sidérante, effrayante. Donc vous voyez, il faut oublier toutes nos catégories pour penser ce personnage, cette personne de Méduse.
Ultime question avant d'entendre la légende de Persée qui raconte donc celle de Méduse, parce que le personnage de Méduse est introduit grâce à Persée. Elle n'existe pas par elle-même, hein. Elle existe à travers le regard des autres ou l'usage des autres. Je l'ai dit, vous allez sortir un livre sur la vengeance, Laurence de Villers. Est-ce que c'est une figure de la vengeance, Méduse, ou justement, puisqu'elle est toujours agie par d'autres, soit comme soit punie, soit violée, soit brandie comme un pouvoir de pétrification par Persée, soit combattue, soit monstrueuse. Est-ce qu'elle se venge, elle, finalement? Ou est-ce que, justement, c'est l'antimodèle de la vengeance?
Alors, lourde question.
Vous avez une minute. Non, en plus.
Le point de départ, c'est qu'elle subit la violence d'une injustice. Elle est violée par Poséidon, le dieu, une divinité
Neptune
marine.
Aussi, oui, dans le...
Neptune.
Ouais.
Donc, c'est le point de départ. C'est-à-dire que la métamorphose ne se serait pas enclenchée, elle ne serait pas devenue autre si elle n'avait pas été contrainte de devenir autre par ce viol. Elle est passée de l'innocence, alors l'innocence pas au sens d'absence de culpabilité, mais l'innocence au sens d'une tranquillité à être ce qu'on est, puisqu'on s'interroge sur ce que ça fait d'être ce qu'on est. Elle est passée de cette tranquillité, de cette insouciante à être ce qu'elle est, au statut de victime, à tout jamais. Donc elle est devenue autre. L'injustice l'a métamorphosée. Mais moi j'ai été surprise de voir que l'analyse courante consistait à dire que c'était Athéna, parce qu'elle a été violée dans un temple d'Athéna, donc ce serait la déesse qui l'aurait punie.
De ce sacrilège d'avoir été violée. En fait, ce qui est puni, c'est le viol dans son temple. Donc Athéna ou Minerve, c'est les deux noms grecs et latins. Et donc puni, en fait, déjà c'est la victime qui est punie, qui serait punie, mais pour ce sacrilège, moins pour le viol, en fait, finalement, que pour le fait d'avoir fait ça dans son temple.
Oui, et on trouve comme explication que Minerve ne pouvait pas affronter directement Poséidon, Neptune. Mais les dieux grecs ne cessent de se batailler les uns les autres, d'être en querelle les uns avec les autres. Donc, moi, je ne suis pas certaine de cette interprétation. Je pense qu'en réalité, Athéna n'a pas puni Minerve, n'a pas puni Méduse. Elle lui a donné des pouvoirs et des pouvoirs extraordinaire. Ce pouvoir consiste quand même à brouiller la catégorie qui me semble centrale de la vie et de la mort, parce que elle ôte à ses victimes, de victimes, elle fait des victimes, Méduse ôte à ses victimes l'humanité et la vie, c'est-à-dire qu'elle les transforme en statues de marbre, ni mort ni vivant. Elle fait de ses victimes quelque chose, un être qui est entre la mort et la vie. Mais en réalité, elle est dotée de super-pouvoirs qu'elle va continuer à avoir une fois morte, puisque Persée va se servir de sa tête, puisqu'il a décapité Méduse, il va se servir de sa tête pour la brandir comme une arme, pour effrayer et tuer, transformer en mort-vivant ses ennemis. Donc non, je pense que la métamorphose, c'est parce que elle a été victime d'un viol, et le viol, toute injustice vous transforme à jamais, et pour toujours, mais elle a été dotée ainsi de pouvoir. Alors, est-ce que ces pouvoirs la vengent? Je vous laisse conclure, mais elle est dotée de pouvoirs qu'elle n'avait pas et qui transforment ceux qui voudraient l'atteindre en pierre.
On va écouter tout de suite, Laurence de Villers, le récit de Persée, de son combat avec Méduse, mais aussi du récit même de Méduse que vous avez commencé à évoquer et sur lequel on va insister vraiment. Pourquoi Méduse a-t-elle été métamorphosée et l'importance de ce viol moins que la punition infligée par Minerve?
Maintenant, très courageux Persée, je t'en prie, dis-nous. Avec quel talent, avec quel art as-tu arraché cette tête chevelue de serpent? L'enfant d'Agénor raconte que sous l'Atlas glacé, il y a un lieu protégé d'un rempart de rochers solides. À l'entrée habitent deux sœurs, les filles de Phorcys, qui se partagent l'usage d'un seul œil. Rusé, habile, voleur, c'est ce qu'on raconte, il prend l'œil dans sa main camouflée et par de longs chemins secrets, détournés, rochers horrifiants et forêts escarpées, il arrive à la maison des Gorgones. Dans les champs, un peu partout, sur les chemins, il a vu des simulacres d'hommes et de bêtes transformés car ils ont vu Méduse en pierre. Lui, la beauté de l'horrible Méduse, dans le reflet du bronze du bouclier qu'il porte à la main gauche, il l'a aperçue. Pendant que le sommeil la tenait, elle et ses serpents, il a tranché la tête du cou et Pégase, fugueur ailée, et son frère sont nés du sang de cette mère. Il ajoute les dangers réels de sa longue course, les mers et les terres que sous lui il a vues et les étoiles qu'il a touchées de ses ailes battantes. On attend la suite. Il se tait. L'un des chefs lui demande pourquoi, seul parmi ses sœurs, Méduse porte des serpents mêlés à ses cheveux. L'étranger, tu veux savoir ? C'est vraiment à raconter. Écoute la réponse à ta question. Très célèbre pour sa beauté, Méduse était l'espérance même, recherchée par tant de chefs. Rien n'était plus attirant en elle que ses cheveux. J'en ai rencontré un qui se souvient de l'avoir vue. Le maître de la mer l'a violée dans le temple de Minerve, c'est ce qu'on dit. La fille de Jupiter alors s'est détournée, de l'égide a caché son visage pur. Il ne fallait pas laisser le viol impuni. Elle a changé les cheveux de Gorgone en hydre de la honte.
Livre 4 des Métamorphoses d'Ovide, lu par Colin Gruel dans la traduction excellente de Marie Connet qu'on utilise depuis le début de cette semaine. Ce texte est capital parce qu'on y entend vraiment le récit en fait de Méduse. Au départ, Méduse apparaît grâce à Persée, grâce à la légende de Persée qui a vaincu la Méduse. Mais à la fin du texte, tout à coup, quelqu'un lui dit « Mais pourquoi ?» Méduse s'est-elle transformée? Pourquoi a-t-elle été métamorphosée? Et j'aimerais, Laurence de Villers, que vous nous expliquiez la fin de ce texte où on entend « Il ne fallait pas laisser le viol impuni. Elle a changé les cheveux de Gorgone en hydre de la honte. » Ça, c'est capital pour comprendre ce mythe de Méduse.
Oui, alors l'interprétation, on le disait... spontanée qui viendrait, c'est que ce serait Méduse qui aurait été punie. Mais non, le texte dit c'est le viol qui ne peut pas rester impuni. Donc c'est pas la victime qu'on doit punir du viol. C'est le viol qui doit être puni. Et encore une fois, je pense qu'il est puni par le fait que Méduse se voit octroyer le pouvoir de pétrifier tous ceux qui pourraient s'approcher d'elle. Donc d'une certaine façon, elle obtient cette sécurité, cette protection et cette justice qu'elle n'a pas eue. Méduse n'a pas été protégée, puisqu'elle a été violée par Neptune, mais par la suite, elle va être entourée elle-même d'une protection surnaturelle et en tout cas super puissante, puisque personne ne pourra plus la regarder, c'est même pas l'approcher ou la toucher, c'est même pas la toucher. Personne ne pourra même la regarder.
Poser le regard de loin sur elle.
Elle devient, alors vous allez me dire, ce qui contredirait mon interprétation, c'est l'hydre de la honte. Oui, mais voilà. la honte de qui, Géraldine ? La honte de qui ? De celui qui l'a violée, du viol ? Donc en fait, c'est comme si... Méduse montrait à tous ce qui n'aurait jamais dû être, ce qui n'aurait jamais dû exister. C'est la honte de qui ? Pour moi, c'est pas la honte de Méduse, c'est Méduse qui... La honte change de camp. C'est-à-dire que Méduse est dotée de ce pouvoir, non pas pour rester une victime passive, mais pour devenir le témoin. Non plus victime, qui veut dire sacrifié, hein, ce qu'on mettait à part martyr, ce qu'on mettait qu'a donné martyr, ce qu'on mettait à part pour le sacrifier aux dieux. Non plus victime, mais témoin. Elle va attester de la honte,
du mal que peuvent faire les hommes.
Elle va attester du mal
et du
elle
traumatisme. On pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle porte le poids du traumatisme qu'elle va exposer aux yeux de tous, mais que personne ne veut le regarder.
Elle devient témoin. Elle devient le témoin de ce mal qu'on ne saurait voir.
Donc, ou là, la preuve.
La preuve. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'une victime, j'aime pas le mot victime, La victime, c'est ce qu'a fait de vous l'offenseur. Je trouve insupportable quand on est victime d'être nommé comme victime. Alors dans le droit, être reconnu victime, c'est une victoire. Mais je trouve que ce mot n'est pas celui qu'on a envie d'avoir quand on a été victime. Moi, je pense que la victime, et je vais le dire dans une appréhension qui est pas juridique, hein, la victime, elle témoigne. Elle témoigne de ce qu'on lui a fait. Elle témoigne de l'injustice, de la violence et du mal. Mais c'est ce que fait Méduse, et elle le fait de façon radicale, puisque elle renvoie la honte au point que les autres sont transformés
mais
en
ça,
pierre.
Mais ça, c'est l'interprétation, et c'est pour ça que c'était important de consacrer une émission à Méduse. Pourquoi on a si mal interprété alors ce mythe? Pourquoi Méduse reste monstrueuse? Pourquoi, pour punir un viol, Minerve décide en fait de faire porter en fait cette punition à Méduse plutôt qu'à Neptune? Vous avez posé la question tout à l'heure, Laurence Villers, il n'y a pas de réponse en fait. Mais pourquoi c'est à la victime de porter à la fois le poids de la honte, mais aussi le poids de la preuve, d'attester en fait de l'injustice? C'est d'ailleurs une question totalement juridique qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à la victime de violences sexuelles et sexistes de témoigner du fait qu'elle a été violée, du fait qu'elle a subi un crime ou une violence. Ce qui fait renverse en fait le poids de la preuve.
En fait,
c'est exactement ce qu'on a là avec Méduse.
Oui, je pense que la difficulté pour la victime, même si juridiquement la justice essaie de plus en plus de placer la victime au centre du rituel du procès, ce qu'elle n'était pas dès l'origine. Hein, même pendant très longtemps, la victime était évacuée du procès. C'était l'État ou ses représentants qui parlaient au nom de la société pour punir un crime. Mais en fait, je pense qu'on fait poser un poids énorme sur la victime. Non seulement son récit est un récit parmi d'autres, là on le voit bien, c'est même pas Méduse qui parle. Donc son récit devient un récit parmi d'autres. Dans le principe du contradictoire, on va lui opposer le récit du prévenu ou du présumé coupable. Et puis, alors ça va peut-être être paradoxal ce que je vais dire, mais je trouve que de nos jours, sous prétexte d'être attentif à la victime, on lui demande même de se réparer. Donc, pèse une culpabilité supplémentaire. Non seulement elle a été victime, mais il faudrait qu'en plus, elle soit capable de se réparer. Et c'est ça que j'interroge.
De la résilience, par exemple.
Elle doit être forcément combative, résiliente, se reconstruire, se refaire, rebondir, devenir ce qu'elle est, enfin, tout ce que vous voulez. Et moi, j'interroge cette injonction, cet impératif qui pèse à nouveau sur la victime, où il faudrait qu'elle apporte de l'harmonie dans la société, puisqu'elle devrait pouvoir discuter avec un coupable ou quelqu'un qui serait coupable d'un crime dont elle a été victime. Elle devrait se reconstruire elle-même. Et moi, j'interroge sur le fait que, et si la victime veut autre chose, si la victime, Géraldine, a envie, elle, non pas de se reconstruire et de réparer, à mon sens, qui ne peut pas l'être, quand on a été victime d'un outrage, il y a une douleur irréparable et donc impardonnable. Est-ce qu'elle n'aurait pas le droit, non pas de retisser le fil de sa vie qui a été coupé par la violence de l'injustice, est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de se métamorphoser, de devenir autre, non pas de se réparer dans une vision de continuité, mais d'être ailleurs, de...
Mais la métamorphose, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Laurence de Villers, ça n'est pas une rupture radicale.
C'est-à-dire non, il y a quelque chose de vous qui reste.
Il y a quelque chose qui reste, il y a quand même un fil qui perdure. Et on pourrait se poser la question avec Méduse de, chez Ovid, qu'est-ce qui perdure de Méduse? Parce que c'est vrai qu'en fait, Méduse n'existe qu'à partir du moment où elle a été victime dans le récit. C'est-à-dire qu'elle n'existe que parce qu'elle est victime d'un viol. Viol qu'on a d'ailleurs souvent oublié pour parler notamment, en fait, du fait qu'elle a été transformée en monstre et que c'était un monstre. En fait, elle sert un peu de faire valoir à Persée. D'ailleurs, on l'entend dans le début du texte. Hein. Persée se vante d'avoir pu la tuer grâce à sa ruse. On va y revenir d'ailleurs sur cette ruse du bouclier et de la médiation. Mais en fait, Méduse elle-même, qu'est-ce qui dure d'elle-même dans le temps, dans la mesure où on ne sait pas qui elle était avant et qu'elle n'existe que par là?
Il perdure son pouvoir, c'est-à-dire que même morte, la tête de Méduse continue à être une arme. C'est-à-dire que je pense que, en tout cas, c'est une lecture que je propose. Ovid nous permet de voir la victime non pas du côté de la faiblesse, de la vulnérabilité, mais du côté de la force. Ça n'efface pas ce qu'elle a subi, mais ça ne la transforme pas en une personne qui serait privée de ce qu'elle est. Au contraire, elle gagne en être d'une certaine façon. Elle ne perd pas l'être. Je parle avec les mots d'Ovide qui sont pas exactement les nôtres, mais elle ne perd pas la puissance qui consiste à être ce qu'on est. Maintenant, je pense que il y a dans la réflexion d'Ovide quelque chose qui nous est peut-être un peu plus éloigné, quoique ça me semble vraiment intéressant de garder ça en tête. C'est que il y a dans la figure, à travers la figure de Méduse et de son combat avec Persée, il y a un combat entre culture et violence. Méduse, elle appartient aux forces souterraines, chthonéennes, primitives, ancestrales, avec quelque chose d'une violence non maîtrisée. La violence comme pouvoir, hein, comme force, pas du tout comme brutalité. Quelque chose de sauvage, on va dire.
Un peu comme une pulsion, on pourrait dire.
Quelque chose d'indompté. Quelque chose qui vient des profondeurs, qui est dans le monde.
On retrouve le côté visqueux qui jaillit comme ça, qui pousse.
Une force puissante, indomptée et sauvage. D'ailleurs, du sang de Méduse, de la tête de Méduse une fois morte, donc elle ne cesse de donner la vie. Je vous disais, elle brouille les frontières entre mort et vivant. De Méduse va naître Pégase, qui est ce qu'il y a de plus rapide au monde. Donc, elle qui pétrifiait, elle a donné la vie à Pégase.
Fugueur ailée.
Exactement, qui est le plus rapide de tout ce qui existe au monde. Et elle a donné naissance à un géant, donc tout ce qui
est... Chrysaor. Il n'est pas nommé, mais il s'appelle Chrysaor. Il est moins connu que Pégase.
Tout ce qu'il y a, elle a donné vie à quelque chose de maximal. Tout ce qui est le plus grand, Chrysaor, géant, et tout ce qui est le plus rapide, Pégase. Donc, elle est cette force souterraine, profonde, qui habite le monde et qui est au-delà de la mort et de la vie, mais que l'humanité va tenter de dompter, de domestiquer. Donc, il faut... Et qu'est-ce que va faire Persée ? Il va s'approprier son pouvoir. En fait, Méduse ne meurt vraiment jamais. Elle va passer à l'humanité ses pouvoirs divins, surhumains, on peut dire monstrueux, parce que monstrueux, c'est pas quelque chose qui est diminué, c'est quelque chose qui est plus puissant que ne peut être l'humain. C'est la conjonction de force animale et humaine. L'humanité, par Persée, va s'approprier ce pouvoir sauvage, va le médiatiser à travers quoi ? D'abord le récit. Regardez, qu'est-ce qu'on a de Méduse ? Le fait qu'elle est médiatisée, que sa sauvagerie, c'est cette profondeur indomptée qui habite le monde, est médiatisée par un récit de la culture, de la littérature. Et puis, elle était déjà médiatisée par Persée, puisqu'il s'est, au lieu de la regarder dans les yeux, ce qui aurait...
L'aurait tué.
Il l'a enfermé dans le reflet de son bouclier, le regard de Méduse. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau. Ce reflet du bouclier, c'est déjà un tableau, c'est la culture, c'est la peinture. Caravage a représenté Méduse sur un bouclier. C'est à Florence, aux Uffizi, si, à la Galerie des Offices. C'est déjà l'humanité qui s'approprie cette force sauvage qui habite le monde pour en faire quelque chose qu'on peut aller visiter dans les musées, qu'on peut regarder, qu'on peut peindre. Voilà, c'est une appropriation. Cette métamorphose à laquelle on assiste, c'est un transfert de pouvoir. Le pouvoir de Méduse devient le pouvoir, par Persée et son bouclier, le pouvoir de l'art, de la culture humaine. Et puis, il y a un autre développement possible. Persée, ça devient le pouvoir du pouvoir. Persée va se servir de la tête de Méduse pour vaincre ses ennemis. Et puis, vous avez à Florence, toujours, une statue de Cellini qui représente Persée, donc frêle, tout fin, tout sans armes, en fait. L'humanité est sans armes. Elle a ni crocs, ni super pouvoir, mais elle a le pouvoir de la culture. On voit ce Persée tout frêle, une sorte d'adolescent presque chétif, hein, qui tient la tête de la Méduse et qui en fait un pouvoir. Pourquoi c'est à Florence ? Parce que c'est le pouvoir des Médicis. Et en fait, Méduse devient de sauvage, d'indompté, d'indomptable, apparemment, personne ne pouvait se l'approprier. Elle devient le pouvoir que l'humanité s'est octroyé, l'humanité a cultivé en fait cette sauvagerie pour en faire une arme à sa disposition, à la fois artistique et politique.
Mais moi, ce qui me fascine dans ce que vous dites, Laurence de Villers, c'est que Méduse a subi plusieurs métamorphoses, celle du viol de Neptune, celle du massacre, en fait, du combat avec Persée. Elle ne meurt jamais, mais elle est toujours, en fait, elle subit toujours la métamorphose d'autres qu'elle-même, même à travers la culture, à travers les arts. C'est tout à fait pertinent ce que vous venez de dire, mais effectivement, Méduse n'existe jamais par elle-même, elle est toujours métamorphosée par d'autres, d'où d'ailleurs les multiples reprises, représentations qu'on a vues dans les arts, que ce soit dans la sculpture, dans la peinture, à tous les âges, jusque dans le cinéma, on l'a entendu en début d'émission, mais ça veut dire que, en tout cas, Méduse, c'est une figure qui ne s'appartient pas elle-même.
Alors, Géraldine, je ne sais pas si j'irai jusqu'à soutenir ça, parce que ce qui lui appartient toujours, c'est son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est... Il passe, il est transféré, métamorphosé, il est métamorphosé son pouvoir. Ça devient un pouvoir de combat, de culture, d'art, un pouvoir politique, mais ça reste son pouvoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une subtilité du texte d'Ovide et de la culture qui l'entoure. L'idée que, en réalité, l'humain est cet animal sans pouvoir par rapport aux autres animaux et que, le pouvoir politique, par exemple, n'appartient pas aux politiques. Le pouvoir ne vous appartient jamais. Vous pouvez, pour un temps, vous l'approprier, mais dans son fond, le pouvoir reste celui de Méduse. Il faut la tête de Méduse pour avoir du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne disparaît jamais.
Et je trouve... C'est presque un concept ou un élan, une pulsion incarnée.
Ah oui, je pense que là, on a une richesse philosophique très importante, c'est-à-dire sur deux plans. C'est-à-dire sur le plan de l'être, puisque c'est quand même s'interroger sur qu'est-ce qui est et qu'est-ce que je suis, d'une certaine façon. Il y a quelque chose de Méduse qui se métamorphose et qui subit, comme vous l'avez dit, de multiples métamorphoses. Sans fin, en réalité. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ce mythe perdure, parce que Médée ne meurt jamais. Méduse, bah, vous voyez, là-dessus, voilà, c'est oui, fait. Oui. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est jamais mort de cette sauvagerie, de cette profondeur, de cette puissance qu'habite le monde, mais qui est métamorphosée à travers la culture. Mais ça veut quand même dire que l'humain n'a jamais ses pouvoirs dont il use. Il ne peut qu'user de ses pouvoirs. Il lui faut la tête de Méduse pour avoir ce pouvoir. Et je trouve intéressant, c'est intéressant que ce soit dans la Florence des Médicis, cette idée que le pouvoir, vous pouvez le perdre. Ce qui compte, c'est de pouvoir le garder. Ça, c'est toute la pensée de Machiavel. Dans Le Prince, il va dire aux Médicis, ce qui compte, c'est un manuel pour les politiques ou les dirigeants, Le Prince, il va dire ce qui compte, c'est pas tant de croire qu'on a le pouvoir, mais c'est d'avoir toujours à l'esprit qu'on ne le possède jamais vraiment, donc comment le garder? Et Méduse, elle incarne cette pensée-là. C'est-à-dire que le pouvoir, je ne l'ai pas, il me vient d'un autre, de Méduse. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant, se dire que l'humain n'a jamais les pleins pouvoirs. Les pouvoirs viennent d'autre chose que l'humain essaie plus ou moins. C'est une pensée de la domestication, plus ou moins domestiquée. Mais vous pouvez, à nouveau, on peut très bien imaginer qu'on peut être subverti par ce pouvoir qu'on essaie d'utiliser. Qu'est-ce qui vous dit que par une erreur de tactique ou de gestuelle...
On regarde Méduse.
Donc, il y a quelque chose dans le monde qui l'habite, qui vient des origines, qui est... jamais dompté, mais qu'on essaie par la culture, l'art, les récits, la littérature, le gouvernement, le fait de bien gouverner, qu'on essaie de maîtriser. C'est jamais totalement maîtrisé. Et puis c'est quand même, je trouve que c'est très intéressant de se dire que la peinture, par exemple, qui a représenté Méduse, utilise un pouvoir à ses risques et périls. Qu'est-ce qui vous dit que nous, regardant ce tableau de Caravage, on ne va pas être sidérés? Il y a un pouvoir sidérant de l'art.
Tout le problème pour Persée, c'est de savoir comment il sera possible de tuer la Gorgone sans croiser son regard. Très souvent, dans les images, il regarde de l'autre côté. Et à partir d'un certain moment, je crois que c'est le milieu ou la fin du 5e siècle, apparaît une réponse à ce problème qui est le miroir. Athéna est à côté de Persée et au lieu qu'il regarde la Gorgone Méduse, Persée regarde sur le miroir que constitue le bouclier, cette tête, et par conséquent, d'une certaine façon, la force destructrice de ce regard est anéantie à travers le reflet. Méduse est une tête qu'on ne peut pas voir. Elle est non visible comme elle est indicible. On ne peut pas ni voir ni dire ce qui est absolument chaotique, ce qui est l'anéantissement. On ne peut pas le dire. Et pourtant, d'une certaine façon, le miroir va refléter cela. Et en le reflétant, de la même façon que sur le vase, le peintre, lui aussi, va jouer un rôle de miroir, puisqu'il va représenter cette tête qui est non représentable. Et en même temps, dans le même miroir, il y a l'idée que ce qu'on aperçoit, c'est une espèce d'ouverture vers l'au-delà. C'est quelque chose qui peut vous révéler à vous-même.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Le grand spécialiste de la Grèce antique, le grand helléniste Jean-Pierre Vernant. C'était dans cette archive qui a été diffusée au moment de sa mort en 2007. Il avait publié en 1985 « La mort dans les yeux, figure de l'autre en Grèce ancienne ». Vous ne faisiez qu'acquiescer, Laurence de Villers, à cette archive, puisque effectivement, on y entend la nécessité de Méduse comme d'une médiation pour représenter ce qu'on ne peut pas voir directement. C'est-à-dire qu'elle nous permet de regarder ce qui est insoutenable tout en le maintenant à distance. Il y a un effet à la fois cathartique. On pourrait aussi se poser la question de la justice. Est-ce qu'en fait, le récit de Méduse nous permet à, parce qu'il dit on ne peut pas le dire, on ne peut pas le regarder directement, mais on en fait quand même des récits, on en fait quand même des peintures, des sculptures. L'histoire de l'art, on pourrait peut-être l'évoquer très rapidement, est quand même un témoignage de ces multiples représentations de Méduse, est-ce qu'elle est en cela vraiment un témoignage, en fait, peut-être une œuvre de justice ?
Alors, si on rappelle vraiment en deux mots ce qu'on a déjà dit, en fait, la ruse, parce que Persée n'arrive pas à combattre Méduse par la force, mais par la ruse. D'abord, il attend qu'elle soit endormie, et pour ne pas être pétrifié par son regard, il va tendre entre lui et Méduse son bouclier. Donc Méduse, en fait, est médiatisée par ce bouclier qui reflète son regard sans que ça pétrifie Persée. Donc j'y vois, mais comme Vernant, la naissance de cette capacité de la culture à regarder ce qu'on ne saurait regarder et à nous faire voir ce qu'on ne pourrait pas voir.
Ou ce qu'on ne pourrait pas faire. Il y a l'effet cathartique de ce point de vue-là.
Il y a en fait, je trouve la définition de l'art, si on la tire de cet épisode de Méduse intéressante, c'est l'art n'est pas tant la représentation que l'irreprésentable. L'art nous donne à voir ce qu'on ne saurait voir sans mourir. Donc il y a un risque à regarder l'art, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut aller voir les tableaux dans les musées, en se disant, en ayant Méduse à l'esprit, en se disant, je peux ne pas en sortir indemne. Et puis je parlais de Florence, Stendhal visitant Florence, oui. On tombe malade. Mais parce que la beauté doit nous métamorphoser. Je pense que c'est important de retrouver dans notre vie la capacité qu'a la culture de nous métamorphoser, parce que son origine est celle d'une métamorphose de Méduse. Et c'est important de le faire. Si on reste indifférent devant un tableau, c'est que on n'a pas saisi ce côté sidérant, peut-être effroyable, cette beauté effroyable de l'art qui consiste à nous représenter, à donner à voir ce qui est irreprésentable. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette Méduse qu'on ne saurait regarder ? Si on écoute Jean-Pierre Vernant, on a l'impression que c'est la mort. Alors, je dois tout à Vernant, donc je vais pas me mettre à... je nuancerai, je suis pas sûre qu'il y ait que la mort qu'on ne puisse pas regarder dans les yeux. Je pense qu'en réalité, ce qu'on ne peut pas regarder dans les yeux, c'est le mal, parce que c'est l'origine de Méduse. Elle n'aurait jamais été cette femme aux cheveux de serpent qui nous pétrifie si elle avait pas subi une injustice, le mal du viol. Donc je crois qu'on ne saurait regarder le mal dans les yeux, il faut toute la force de la justice pour pouvoir en faire quelque chose dans nos sociétés et dans notre culture. Puis je crois qu'aussi, ce qu'on ne peut pas regarder dans les yeux, c'est cette sauvagerie des origines. Vous savez, même Platon fait dire à Socrate qu'il y a en nous des désirs terrifiants, sauvages. Il y a quelque chose dans l'humain et dans le monde qui vient du monde, des profondeurs du monde. Il y a quelque chose qui demeure sauvage et indompté.
Et est-ce qu'elle fait, parce que c'était la deuxième dimension, enfin le deuxième pan de ma question, il y a le côté cathartique et le côté, donc non pas représentation mais irreprésentable, mais quand même l'idée de justice. Voilà, est-ce que le récit, les récits, les représentations de Méduse sont là pour nous pousser à regarder quelque chose qu'on ne veut pas regarder, donc le mal ou la mort qui a été infligée, pour justement presque faire œuvre de mise en garde, d'avertissement, de morale d'une certaine manière. Je dirais pas pédagogique non plus, mais il y a quand même, il y a pas de morale hein, chez Ovid. Faut le dire, il y a pas de bien, il y a pas
de mal.
De
l'être sans bien, sans questionnement sur le bien, le mal.
S'il y a une éthique, ce serait celle de la tempérance, à savoir, voilà, toujours être attentif à ce qu'il y a autour de nous, tenir le juste milieu. Mais là, à travers le récit de Méduse, c'est dire, regardez ce que vous êtes capable de faire, faites attention.
Pourquoi pas ? Parce qu'il y a quand même cette tête qu'on ne cesse de montrer.
De brandir, effectivement.
En fait, on montre l'obscène de ce qui a donné lieu à cette métamorphose de Méduse, d'une certaine façon. Elle-même est la manière médiatisée de nous faire regarder ce qu'on ne saurait regarder, à savoir la violence de l'injustice, du viol, de l'offense, de l'outrage. Peut-être qu'il y a de ça, il y a une monstration.
D'ailleurs, le monstre veut dire montrer.
Il y a une exposition, on nous montre. Et puis, c'est peut-être le rôle de l'art de nous bousculer, de nous inquiéter profondément jusqu'à l'effroi pour nous faire voir ce devant quoi, généralement, on détourne les yeux, qu'on ne veut pas voir.
Ce qui est intéressant, parce que l'histoire de l'art témoigne, en fait, des différentes figures dont on a revêtu le mal. Donc, par exemple, à un moment donné, elle est devenue Méduse, voilà, il y a une sorte de réhabilitation romantique au 19e siècle, elle est devenue une victime, donc là, véritablement, en fait, elle devient vraiment la victime du mal des hommes. Mais il y a un autre moment, par exemple, au Moyen-Âge, où là, Méduse était plutôt représentée comme la femme séduisante et dangereuse, alors que Persée était la vertu et la sagesse. Donc en fait, le mal, il prend aussi différentes formes. Et la figure plastique de Méduse nous permet en fait de dire le mal à notre époque, c'est ça. Le mal, il n'y a pas de mal primordial en fait.
En fait, on continue les métamorphoses.
Oui, c'est ça.
La culture est ce réservoir de métamorphoses qui nous permet d'affronter ce qu'on a beaucoup de mal à affronter. Ce qui presque est sans explication. Comment expliquer qu'il y ait cet effroi à l'origine de toute chose? Comment expliquer les gorgones, c'est-à-dire l'idée que dans les profondeurs du monde, il y ait quelque chose qui soit l'antithèse de la civilité, de la mesure, de la tempérance, de tous ces édifices que les humains essaient de faire pour canaliser les passions? Je parle dans un langage contemporain. Comment expliquer l'origine de toute chose? Comment expliquer, par exemple, qu'à l'origine du monde, il y ait non pas la justice, mais l'injustice? Parce qu'après tout, le viol de Méduse, c'est un viol d'origine. Donc, comment expliquer qu'en fait, contrairement à ce qu'on imagine, parce que, justice, grammaticalement, c'est la privation de justice, comment expliquer que c'est tout le contraire? En fait, la justice n'est là que pour endiguer une injustice première. C'est ça, Méduse. Il y a une injustice première et on peut même se demander si Méduse obtient jamais justice. Est-ce que c'est une victime qui obtient enfin justice ?
En tout cas, elle permet, et on va entendre un autre moment des métamorphoses, elle permet à Persée de se faire lui-même justice.
Quand il voit que son courage va succomber à la foule, Persée dit « Vous m'y forcez, je vais demander de l'aide à l'ennemi. Tournez la tête, mes amis, si j'ai des amis. » Il sort le visage de Gorgone. « Cherche quelqu'un que tes miracles impressionnent, » dit Thécélus. Il se prépare, d'une main fatale, à lancer le javelot. En ce geste, il reste figé, statue de marbre. Tout près de lui, Ampyx cherche du glaive la poitrine au grand cœur, pleine du petit-fils de Lyncée. Il la cherche et sa main droite durcit. Elle n'avance ni ne recule. Et Niléus, engendré par le Nil aux sept bouches, à ce qu'il raconte, les sept fleuves, partis en argent, partis en or, gravés sur son bouclier, dit « Vois percer où commence ma famille. Tu auras de bonnes consolations près des ombres muettes de la mort. Avoir été tué par un homme comme moi. La fin de sa voix disparaît en demi-son. Tu croirais qu'il veut entrouvrir la bouche pour parler. Les mots ne passent pas. Un autre, Eryx, hurle. « C'est une question de courage, pas de pouvoir de gorgone. Vous dormez. Allez, avec moi. Jetez au sol ce gamin qui remue ses armes magiques. » Il y courait. La terre retient ses pas. Reste une pierre muette, une image armée. Ceux-là ont subi une peine méritée. Mais un soldat de Persée, alors qu'il combattait, Aconteus, à peine voit-il la gorgone, durcit en pierre naissante. Astyage pense qu'il vit encore et de sa longue épée le frappe. La lame résonne de tintements aigus. Astyage est stupéfié, prend même nature. Il reste un trait d'étonnement sur sa bouche de marbre. Ce serait bien long de dire les noms des hommes du peuple. 200 corps ont survécu au combat. 200 corps se sont durcis au regard de la gorgone.
Nous sommes ici au cinquième livre des Métamorphoses, alors que dans le premier texte qu'on avait entendu, Laurence de Villers, c'était un récit en flashback, un récit enchâssé dans lequel Persée racontait son combat avec la Méduse. Ici, nous sommes dans le temps au présent du récit où Persée est en train d'épouser Andromède, hein, qu'il a libéré l'antithèse de Méduse. Il est donc en train de profiter de son mariage et tout à coup, Phinée, le fiancé qui était promis à Andromède, enfin auquel Andromède était promise, intervient en disant « Andromède me revient ». Et là, s'ensuit, il faut le lire, c'est vraiment effroyable et jouissif, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence de Villers, c'est vraiment un récit incroyable, voilà, des noces sanglantes. Persée n'arrive pas à tuer tout le monde et c'est là où il se sert du pouvoir de Méduse. Alors là, il y a plein d'idées de prénoms hein, à donner aux garçons là, pour les années à venir. Il y a Ampix, Eryx, Niléus, Aconteus, Astyage, voilà, ça changera des prénoms actuels. Voilà, il les tue tous. Ovide dit d'ailleurs, on ne peut pas donner tous les noms. Mais sans Méduse, Persée n'est rien. C'est le pouvoir que vous décriviez tout à l'heure, Laurence de Villers. Sans l'usage de ce pouvoir, l'homme n'est rien.
Mais ses ennemis vont rétorquer. En fait, c'est une réflexion sur le pouvoir politique. Est-ce que le pouvoir politique est fondé sur le courage? C'est ce qu'on va opposer à Persée. On va lui dire non, mais il ne faut pas des super-pouvoirs fascinants. Faut pas la fascination et la séduction, on pourrait dire, mais il faut le courage. Et ça, c'est une réflexion politique. Est-ce que le pouvoir que s'octroient des dirigeants politiques doit être fondé sur le courage, donc la vertu, ce qu'on doit faire, sur le devoir, sur la morale, on pourrait dire, de manière plus générale, où est-ce qu'il faut savoir pour conserver le pouvoir, utiliser la ruse, la dissimulation, la séduction, la fascination, le pouvoir de pétrification. Enfin, c'est ça aussi, ce pouvoir où on est transformé en statue, ça peut être le pouvoir d'une fascination. Donc il y a vraiment une réflexion là, dans ce livre-là, une réflexion politique qui s'engage. Sur quoi doit-on fonder le pouvoir? Le courage, la vertu, la morale, ou la ruse, l'utilisation de pouvoirs qui malmènent un tout petit peu la morale, de fascination et de séduction. Donc c'est comme une nouvelle métamorphose de Méduse qui permet une réflexion sur le politique. Et vraiment, je tirais le fil, parce qu'il est tiré, jusqu'à la politique des Médicis à la Renaissance, et pourquoi pas jusqu'à nos jours, parce qu'après tout, il y a des figures, il y a des enfants de Méduse. On a dit Médée, alors, parce que c'est une fille de Méduse. Médée, c'est la première, c'est une tragédie de Sénèque, mais qui est reprise par la toute première tragédie en France, par Corneille, en 1635, c'est la première tragédie française.
Et d'ailleurs, Ovid, je le signale, a écrit lui-même une tragédie sur Médée, c'est pour ça qu'il en parle peu, en tout cas peu, de l'infanticide dans les Métamorphoses. Il parle de sa conquête de Jason, de la trahison de son père, etc. Mais il ne parle pas de l'infanticide parce qu'en fait, il lui a consacré une tragédie qui a été perdue. Je le signale juste, petite parenthèse sur Médée.
Médée, c'est une fille de Méduse. Médée qui va se venger de Jason, pour qui elle a tout quitté, elle a même tué, en tuant les enfants qu'elle a eus avec lui. Donc là, c'est très nettement, pour répondre à l'une de vos premières questions, une figure de la vengeance. Mais dès, dans Shakespeare, Lady Macbeth, c'est une fille de Méduse, et puis...
Donc on est toutes des filles de Méduse, d'une certaine manière. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, voilà, on a des grandes héritières de Méduse.
En tout cas, dans la culture, il y a vraiment... c'est un réservoir d'images, Ovid. Donc dans la culture, il y a des développements autour de ce pouvoir, alors qu'on dit féminin, mais moi je pense que c'est pas genré, c'est un pouvoir de l'être, et un pouvoir qui peut être de fascination, de sidération, de sauvagerie, comme on disait. Et puis l'antithèse, c'est Andromède, la nouvelle conquête de Persée, qui est au contraire, qui est la force domestiquée, même domestique. Elle va être gardienne du foyer, l'épouse, et tout ça est contenu dans les métamorphoses d'Ovid. Vers quoi on va aller ?
J'aimerais qu'on écoute, juste pour finir l'émission, Laurence de Villers, la voix d'Hélène Cixous, qui quand même a consacré un ouvrage à Méduse et qui a, je dirais pas réhabilité, parce que finalement, avait-elle besoin d'être réhabilitée, en tout cas, elle lui a consacré un ouvrage dans les années 70. Voici ce qu'elle en dit.
La Méduse a un regard, elle a un regard perçant. Donc déjà, c'est très important. La Méduse vous voit. La Méduse vous voit. Freud interprète ça de manière extrêmement forte en remarquant que si, justement, les hommes sont pétrifiés lorsqu'ils voient la méduse, c'est qu'en fait, ils sont raidis, c'est-à-dire qu'ils réagissent à la menace de la castration en ayant une érection, mais une érection qui n'est pas de jouissance, hein, parce qu'elle reste toute raide, comme dans une caricature. Hein. Bon. Et ouais. On lui coupe la tête, ouais. Parce qu'il faut décapiter la femme menaçante. Moi, je pense que la méduse est une image remarquable de ce que les hommes n'analysent pas lorsqu'ils sont misogynes. Mais encore une fois, la misogynie n'est pas le privilège des hommes. Les femmes aussi sont très souvent misogynes. Et c'est exactement la réaction inanalysée d'une phobie qui se manifeste lorsque on se trouve en présence d'une femme qui a de la force et qui donc vous voit tel que vous êtes.
Le rire de la méduse et autres ironies, c'est le titre du livre d'Hélène Cixous qui était paru en 1975. Elle en parlait ici au micro de France Culture, des matins de France Culture, c'était en 2010. C'est une figure qui est devenue féministe, Méduse, Laurence de Villers. On est vraiment passé en fait de cette figure apotropaïque, on n'a pas employé le terme, mais d'ailleurs qui détourne le mal, en fait qui doit conjurer
la protectrice,
à vraiment brandie comme plus qu'en fait une protection, vraiment un slogan d'une certaine manière.
Oui, alors il peut y avoir cette lecture, effectivement. Ce que je trouve intéressant, c'est que Méduse pétrifie les hommes, puisqu'en face d'elle, elle a majoritairement des hommes, pétrifie les hommes, non pas seulement parce que c'est une femme forte, mais parce qu'elle est détentrice d'une force qu'ils n'ont pas. En réalité, ce qui pétrifie, c'est pas la force de l'autre, parce que là, on serait dans un rapport de force. C'est la force que l'autre a et que je n'ai pas. C'est ça qui fait la force de Méduse. C'est un pouvoir que les autres n'ont pas et qui vont vouloir s'approprier Persée le premier. Donc en réalité, c'est pas tant une lutte de pouvoir, c'est le fait qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a un pouvoir que vous n'avez pas. Et ça, d'une certaine façon, c'est insupportable pour le pouvoir lui-même, puisque Persée va vouloir s'approprier ce que Méduse a et qu'il n'a pas.
Mais comment vous expliquez qu'au départ, Méduse nous montre quelque chose qu'on ne veut pas voir, l'irreprésentable, et que maintenant, on puisse aussi s'en servir et même la regarder, on en parlait avec le pouvoir, comme voilà, percer la brandie, on peut en faire un slogan. Je dirais même pas, est-ce que c'est raccord avec la nature de Méduse, parce que comme c'est un mythe, elle est plastique, c'est ses reprises en fait, ses usages qui font exister le mythe. Mais on est passé de l'irreprésentable à la publicité maximale d'une certaine manière.
Mais oui, parce que dans le monstre, il y a l'idée qu'on doit montrer. Donc qu'est-ce qu'on veut montrer? De nos jours, dans cette ultime métamorphose de Méduse, qu'est-ce qu'on veut montrer grâce à Méduse? Quand il y avait eu le procès Weinstein, il y avait une statue de Méduse à New York, mais c'est elle qui tenait la tête de Persée.
Oui, c'était une sculpture de l'artiste argentin Luciano Garbati. Voilà, effectivement, c'était inversé. Voilà.
C'était inversé. Alors moi, je pense que c'est pas une bonne lecture. C'est-à-dire qu'on va pas octroyer du pouvoir aux femmes en faisant qu'elles-mêmes usent de toute cette du rapport de pouvoir. Je pense qu'au contraire, il faut penser autrement le pouvoir, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes. C'est plutôt intéressant de se dire qu'est-ce qu'il faut repenser pour que le pouvoir ne soit ni ce qui pétrifie, ni ce qu'on veut s'arroger. Je pense que, à mon sens, c'est ça qui est plus intéressant, mais ça serait une autre discussion, Géraldine. Mais je trouve intéressant de se dire que la culture, c'est une suite de métamorphoses. Et qu'il ne faut pas cesser, pour maintenir la culture vivante, de continuer à lire des anciens, qui sont morts il y a très longtemps, parce que ça, c'est un réservoir. C'est, voilà, on a une réserve d'images. Mais de continuer à métamorphoser, par la lecture, ce qu'on a envie de dire de ce qu'on a lu, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu. Et encore une fois, je crois qu'il faut comprendre que derrière, la culture n'est pas une langue morte. C'est ça, en fait, que ça veut dire Méduse. La culture n'est pas une langue morte. C'est pas simplement une question d'image, de représentation, de choses dont on peut faire des tapis de souris, des mugs ou des sacs à main. Je pense à la Joconde, hein, qui se retrouve partout sous forme d'image. Mais la culture, c'est quelque chose qui a trouvé son origine dans une force indomptée et indomptable.
Merci beaucoup, Laurence De Villers. De vous, on pourra lire Vengeance, le droit de ne pas pardonner. C'est à paraître aux éditions Stock le 25 mars prochain. Demain, on vous écoute sur France Culture, mais on peut vous écouter aussi en podcast. C'est le Fil Philo pour lire les Métamorphoses d'Ovide. On a eu recours à la traduction de Marie Connet aux éditions de L'Ogre et aussi en livre de poche. Mais je signale l'édition de Jean-Pierre Néraudeau en folio classique avec le mythe de Méduse, mais aussi le mythe de Philomèle qui est vengée par sa sœur Procné. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment peut-on être détrompé ? À la fin de Fable de La Fontaine qui parle de la tromperie d'un animal, en fait, d'un être humain représenté comme un animal par un autre, à la fin de ces fables, ceux qui ont été trompés se trouvent tout à coup face à la vérité que quelqu'un d'autre les a manipulés, a abusé de leurs croyances et de leurs passions, de leur vanité, de leur gourmandise, en a abusé pour les tromper et tout à coup ils disent, comme dans la célèbre fable, ils disent qu'on ne les y prendrait plus. Après avoir été trompé, on croit qu'on ne sera plus jamais trompé. Il faut peut-être avoir été trompé une fois, avoir fait l'expérience de la malveillance et de la méchanceté, de la séduction délibérée et dangereuse pour ne plus s'y prêter. Mais peut-être parfois est-il trop tard. Bien sûr, le corbeau a perdu son fromage. Il dit, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais d'un autre côté, les populations qui ont été trompées par des dictateurs, quand ils s'aperçoivent et qu'ils ont été trompés, quand ils sont détrompés, parfois il est trop tard, parfois les crimes, parfois les guerres ont eu lieu. Et on se dit tout ça pour ça, une propagande mensongère, une mythologie raciste, des millions de morts, et tout à coup on est détrompé. Mais là, on se dit, mais un peu tard, qu'on n'y se laissera plus prendre. Mais le mal a été fait, en quelque sorte. Il vaut mieux être détrompé en amont, il vaut mieux être détrompé à l'avance. Se méfier des trompeurs, les trompeurs qui agissent sur nos passions pour nous faire commettre quelque chose dans leur intérêt et non dans le nôtre, et parfois dans le crime vis-à-vis des tiers. Ainsi, Platon, dans le Gorgias, a-t-il cherché à nous détromper en quelque sorte par avance ? Méfiez-vous de votre propre plaisir. Le plat que vous mangez, qui vous plaît, n'est pas forcément bon pour votre santé. Le propos qui vous flatte, qui flatte votre vanité, qui vous dit que vous êtes le meilleur et le plus beau, bien sûr, il vous fait plaisir. Et les flattés sont d'ailleurs des personne fragile, et nous sommes tous susceptibles d'être flattés. Le tyran, d'ailleurs, qui nous flatte, veut lui-même être flatté. C'est toujours, les courtisans sont aussi importants pour lui que le peuple qu'il domine par sa flatterie. Ça marche dans les deux sens. Il est donc deux fois fragile aussi. Il est fragile tout autant qu'il est puissant par la tromperie même. Mais ce que Platon nous dit, c'est examiner d'abord le pour et le contre de telle ou telle nourriture qu'on vous donne. Si elle est bonne pour votre goût, est-ce qu'elle est aussi bonne pour votre santé. Il faut donc un examen critique. Il faut donc se livrer à l'examen de ce qui nous plaît pour savoir dans quelle mesure cela n'est pas par ailleurs dangereux. Il faut donc se méfier de ce qui nous flatte à l'excès, de ce qui, dans un propos, peut sembler excessif et ne pas l'accepter tel quel pour pouvoir y résister. Quand Iago suggère à Othello que sa femme est en train de le tromper, c'est lui qui le trompe. Il le trompe en insinuant le soupçon de tromperie de Desdémone qui, en fait, n'était pas infidèle. Si le trompeur n'est pas celui que l'on croit, il faut donc un examen critique. L'examen de la tromperie par les temps qui courent, par le temps de tromperie généralisée, l'examen critique, la façon d'être détrompé à l'avance, de ne pas attendre d'avoir commis l'erreur fatale. Le fait d'être détrompé est aujourd'hui au cœur de nos sociétés.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Axel Dubois, Nafel Pain, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Luna Adjla, à la réalisation et à la lecture des textes, Colin Gruel, à la prise de son, Nicolas Leroulet.